Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à Minute Pharmacie, édition du 10 avril 2023. Mon nom est Pierre-Marc Gervais, directeur principal, service pharmaceutique. Minute Pharmacie, c'est le balado de l'AQPP qui est destiné aux équipes qui travaillent en pharmacie communautaire. En quelques minutes, on vous résume nos bulletins de la semaine, on partage quelques faits saillants et on répond à la question d'un auditeur. Cette semaine, il va être question de la gratuité de la naloxone, de l'arrivée de médicaments soumis au PPB, du programme de traitement de l'influenza et d'oseltamivir. Pour ce qui est de la question d'un auditeur, on va se demander s'il est possible de facturer à un patient le tarif pour nos activités cliniques lorsque l'assureur refuse de payer. Avant d'aborder notre premier sujet, je veux saluer tous mes collègues pharmaciens qui ont gardé le fort malgré le congé pascal et les fériés. On le sait que la maladie ne prend pas de repos et les pharmacies non plus. Un grand merci aux équipes en place, vous offrez des services qui sont essentiels à la population. Je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, la naloxone. C'est un sujet qui tient aussi à cœur à plusieurs pharmaciens, parce qu'on sait, la naloxone c'est un antidote qui permet de sauver des vies en cas de surdose avec des opioïdes. Depuis novembre 2017, on a, au Québec, un programme qui permet de fournir gratuitement la naloxone et certaines fournitures. À la QPP, on reçoit encore beaucoup de questions à ce sujet, puis on sait qu'il y a des informations inexactes qui circulent parfois parmi des gens. Les pharmaciens ont besoin d'une petite mise à jour sur ce programme-là pour en rappeler les grandes lignes. Au niveau de l'admissibilité, ce sont les personnes âgées de 14 ans et plus qui vont présenter une carte d'assurance maladie, un carnet de réclamation ou une preuve temporaire d'admissibilité aux médicaments valides. Pour ce qui est des patients étrangers ou sans-abri, mais à ce moment-là, il n'y a pas besoin d'avoir une carte d'assurance maladie. Mais toutefois, le programme demande que pour les visiteurs, il y ait quand même une pièce d'identité comme un passeport là, qui soit montré pour obtenir la naloxone. Dans le cadre du programme, ça ne prend pas d'ordonnance. C'est très important pour vous d'utiliser les bons codes. Il y a des codes pour les intervenants, puis il y a des codes pour les utilisateurs. Quand vous entrez le produit, ce n'est pas le même code de produit qui doit être utilisé et c'est pas non plus le même code de programme. Cette distinction-là, elle est importante parce que au niveau du DSQ, ça va apparaître différemment, selon que ce soit un utilisateur ou un intervenant, donc pour bien documenter le tout et éviter qu'un intervenant soit considéré à tort comme un utilisateur lors d'une admission médicale, par exemple. Le Narcan, vous pouvez fournir 1 à 4 formats de 2 vaporisateurs ou 1 à 4 trousses de 2 vaporisateurs lors de vos services. Pour ce qui est des ampoules en injectables, on parle de 2 à 8 formats de 1 ml. Puis, c'est seulement la naloxone dosée à 0,4 mg par millilitre qui peut être remis dans le cadre du programme. Aussi, vous pouvez fournir les seringues, les aiguilles rétractables, des gants, des tampons alcoolisés, et le tout peut être mis sous forme de trousses avec des masques. Il y a des trousses déjà commercialement disponibles qui existent et que vous pouvez remettre lorsque vous faites la remise de la naloxone. À qui la naloxone est destinée? On va la destiner, la réserver pour les patients qui sont à risque de surdose ou qui ont des antécédents, vos utilisateurs de drogues injectables, de drogues de rue, vos patients qui prennent un équivalent morphine de 50 mg ou plus par jour en équivalent morphine, les utilisateurs d'opioïdes qui ont d'autres comorbidités, ces gens-là, par exemple, une personne qui aurait une maladie pulmonaire obstructive chronique, déjà de la difficulté respiratoire et qui utilise en plus des opioïdes, elle est plus à risque de développer une détresse respiratoire lors d'une surdose. Aussi, les gens qui utilisent des opioïdes dans d'autres situations ou en combinaison avec d'autres dépresseurs du système nerveux, ces gens-là auraient tout intérêt à avoir sous la main de la naloxone, mais aussi les gens qui les entourent, la famille, les amis. C'est important que ces gens-là, non seulement aient le produit, mais soient formés pour l'utiliser. Puis aussi, vous pouvez en remettre au niveau des travailleurs de proximité, donc les gens qui pourraient être en contact avec des utilisateurs de drogue, par exemple. Les gardes de sécurité aussi devraient en avoir en leur possession pour pouvoir intervenir en cas d'urgence. On vous rappelle que vous pouvez être rémunéré pour un enseignement par année par personne. Parce que quand on remet la naloxone, c'est bien de savoir que la personne en a oui, mais elle doit savoir aussi quand intervenir et comment intervenir. Comment on administre, on utilise le produit. Cet enseignement-là est essentiel. Pour moi, c'est un peu comme le RCR, donc faut être prêt pour revoir régulièrement les techniques là, pour être prêt à intervenir en cas d'urgence. Là, ça devient essentiel pour ça. Quand on remet le produit, c'est important de ne pas porter de jugement. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est sauver des vies. Donc, simplement, la personne, on lui dit, en avez-vous? Oui, non. Et savez-vous comment l'utiliser? Oui, non. On ne va pas nécessairement questionner plus loin que ça. Du côté de la QPP, donc, on a aussi plusieurs outils qui sont mis à votre disposition. Dans les notes du balado, vous allez trouver des liens vers un aide-mémoire de facturation pour vous assurer que vous comprenez bien là, comment réclamer le tout. puis s'assurer que ce soit remis gratuitement. Donc, avec les programmes, c'est toujours gratuit à ce moment-là pour l'naloxone. On a aussi un lien qui est vers une formation qui est offerte en différé, qui est accessible tout à fait gratuitement et qui est accrédité pour une unité de formation continue. Allez voir les notes du balado, tous les liens s'y trouvent. Notre deuxième sujet, c'est la méthode du prix le plus bas. Vous savez ce que c'est? C'est que pour une même dénomination commune, donc d'un médicament, même forme, même teneur, cette méthode-là sert à établir le prix le plus bas qui va être payé au niveau du prix garanti. Donc, pour un même format, c'est ce prix-là qui est payé. Puis, si c'est un autre produit qui est choisi, bien, à ce moment-là, il peut y avoir ce qu'on appelle des excédents non assurés. La méthode du prix le plus bas pour les médicaments oraux, elle est établie en fonction de ce qu'on appelle le prix unitaire. Donc, c'est le prix par plus petit format disponible. Souvent, c'est un comprimé à ce moment-là. L'excédent est payé entièrement par le patient. Ce qui arrive, puis ce sur quoi on reçoit des questions à la QPP, c'est que lorsque des mises à jour de la liste des médicaments de la RAMQ, il y a souvent des nouveaux produits multisources qui sont ajoutés, des nouveaux produits qui sont affectés par la méthode du prix le plus bas. Par exemple, pour la prochaine liste du 13 avril, l'inhalateur Flovent HFA 50 microgrammes va être touché, la suspension de Clavulin 400, le Sutan 12,5 mg, puis la crème Bétaderme à 0,05%. On le sait qu'à compter du 13 avril, si vous remettez les versions originales ou la version la plus dispendieuse, bien, il risque d'y avoir un excédent non assuré à payer pour le patient. On peut pas vous dire encore ça va être quel médicament générique qui va être remboursé, parce que ça, on le sait seulement lorsque la liste est publiée. C'est 2 jours avant son entrée en vigueur. Nous, on reçoit l'information lorsqu'il y a des nouveaux produits touchés par les PPB environ 10 jours avant la publication d'une nouvelle liste. Donc, on vous transmet l'information dès que celle-ci est rendue disponible. Je sais que dans certains cas, ça fait des enjeux de gestion d'inventaire, surtout quand ce sont des produits à haut volume. On le sait, là, on l'a vu, ce que vous avez vécu avec le Eliquis, puis le Januvia, Janumet, entre autres. Là, ces produits-là se retrouvent souvent dans les piluliers, puis ça demande des changements. On fait ce qu'on peut pour vous aviser le plus tôt possible. Ce qu'on fait aussi pour vous aider à vous préparer, c'est qu'on va voir du côté de l'INES pour voir quels produits sont soumis pour inscription à une prochaine liste. Ça ne garantit pas que ces produits-là vont se retrouver à la liste des médicaments là, à la date prévue, parce que le ministre a toujours la liberté de négocier des ententes d'inscription. Puis ça, c'est secret, donc on n'est pas impliqué là-dedans. Et c'est seulement lorsqu'on a la confirmation de la liste là, qu'on peut savoir si un produit va être ajouté ou pas. Puis la décision revient entièrement, uniquement au ministre. Mais quand même, de notre côté, on va vérifier régulièrement sur le site de l'INES pour savoir est-ce qu'il risque d'y avoir des changements qui peuvent vous affecter dans votre pratique et donc vous préparer à tout cela le plus rapidement possible. Mon conseil est simple, lisez régulièrement nos bulletins, puis cherchez dans les titres des messages. Là, le titre va commencer par « Médicaments soumis au PPB à compter du telle date », donc la date de parution de la prochaine liste des médicaments de la RAMQ. Sujet suivant, c'est le Zeltamivir. Donc, même si on est le 10 avril, la grippe n'a pas dit son dernier mot au Québec. On voit qu'il y a eu une hausse des cas d'influenza, puis on soumettra l'année dernière qu'il y avait eu une incidence importante là, d'influenza au mois d'avril. C'est difficile de savoir ce qui va arriver, on n'a pas de boule de cristal, mais pour nous, c'est une bonne raison de vous rappeler que le programme qui vous permet de fournir gratuitement le Tamiflu, le Zeltamivir là, à vos patients, continue en pharmacie communautaire et ce jusqu'au 15 mai. Le Zeltamivir demeure gratuit jusqu'au 15 mai. C'est possible pour vous comme pharmacien de prescrire à vos patients à risque de complications qui sont symptomatiques le médicament et aussi en prophylaxie au besoin pour vos patients qui seraient à risque. Le stock qui avait été distribué initialement en décembre, beaucoup de ces lots-là venaient à échéance au 31 mars. Il y a du nouveau stock qui a été rendu disponible chez vos grossistes, chez tous les grossistes, donc vous pouvez en commander au besoin si vous recevez encore des ordonnances là, pour le Zeltamivir ou si de votre côté vous-même, vous décidez de prescrire ces médicaments-là. On met aussi dans les notes du balado un lien vers l'infolettre de la RAMQ pour vous rappeler comment bien facturer et comment réclamer là, vos honoraires pour que ça soit gratuit pour le patient. Finalement, on arrive à la question de la semaine. Donc, la question, c'est si je fais une activité clinique et que l'assureur refuse de payer, est-ce que je peux facturer mon tarif au patient? L'assureur public, RAMQ, ou l'assureur privé doit payer certaines activités cliniques. Donc, c'est prévu à la loi. Ces activités-là sont la prolongation d'ordonnance, la modification d'une thérapie médicamenteuse, l'administration d'un médicament aux fins d'enseignement, la prise en charge après une hospitalisation, et puis la substitution thérapeutique. Toutefois, il y a certaines exceptions, puis on parle des assureurs privés fédéraux. Entre autres, le régime de soins de santé de la fonction publique fédérale, le RSSFP, lui, il n'est pas tenu de payer les activités cliniques parce qu'il ne relève pas de la loi québécoise, mais d'une loi fédérale à la place. Ce sont des patients qui sont faciles à identifier. Là. En ce moment, la carte que ces gens-là vous présentent, c'est une carte de la Sun Life, puis le numéro sur la carte, le numéro de contrat, c'est 05555, donc 0 suivi de 5 fois le chiffre 5. Si vous voyez ça, vous savez que c'est le RSSFP, et si c'est refusé par l'assureur, c'est tout à fait normal à ce moment-là, c'est quelque chose qu'on sait. Oui, on aimerait ça que ça soit payé par l'assureur, oui, on aimerait ça établir des discussions avec eux là, pour que les services soient payés, mais en ce moment, ça ne l'est pas. Ce que vous devez faire, c'est de facturer le tarif qui est déjà prévu, donc le tarif existant pour l'activité, à la personne qui va bénéficier du service. Ce qu'on vous suggère avant de rendre le service, c'est d'aviser, avertir la personne qu'il va y avoir des frais. Donc, si vous faites une prolongation d'ordonnance avant de la faire, avisez la personne qu'il va y avoir des frais que son assurance ne couvre pas. Puis bon, vous pouvez toujours offrir là, des alternatives à la personne. Par exemple, lui dire qu'elle doit revoir son médecin si elle refuse de payer au niveau des frais en pharmacie. De notre côté, à la QPP, on travaille sur un dépliant qui est à venir là, pour tenter d'expliquer à vos patients là, pourquoi il y a des frais et que c'est leur assurance qui refuse de payer pour le service. Surveillez nos communications à venir à ce sujet. Voilà, c'est ce qui met fin à ce balado Minute Pharmacie. Merci encore une fois de votre attention. Et je tiens à remercier chaleureusement l'équipe qui m'aide à produire ce balado semaine après semaine. Par ailleurs, je vous rappelle de consulter les ressources de la QPP pour demeurer bien informé au sujet de votre profession et des activités de votre association, comme les bulletins, notre site internet ainsi que nos formations. Si vous travaillez dans une pharmacie communautaire, demandez à votre employeur la clé secrète de votre pharmacie pour pouvoir vous connecter à l'espace pharmacien du site internet monpharmacien.ca et ainsi pouvoir accéder à tous nos services. N'hésitez pas à nous faire part de vos questions et commentaires, et je vous dis à bientôt.